En 61 de l'ère de la dissuasion. Le porte-épée. Debout au sommet d'un grand arbre, Cheng Xin regardait son étoile. Cet astre était la raison pour laquelle elle avait été réveillée. L'année du lancement de l'éphémère programme Stellaris, 15 individus avaient acquis un total de 17 étoiles. En dehors de Cheng Xin, les 14 autres avaient été emportés par le fleuve de l'histoire et leurs descendants, à qui auraient pu être légués les droits de propriété des astres, n'avaient pu être identifiés. Le grand ravin avait agi comme un crible à travers lequel de trop nombreuses choses n'avaient pas réussi à passer. Cheng Xin était aujourd'hui la seule à posséder légalement une étoile. Les humains ne s'étaient pas encore envolés vers les étoiles, mais avec les progrès technologiques renversants que connaissait aujourd'hui la société, la valeur des étoiles situées dans un périmètre de 300 années-lumière autour de la Terre n'était plus seulement symbolique. On venait de découvrir que l'étoile DX3906 comportait en réalité deux planètes, dont l'une ressemblait en tout point à la Terre, à en juger par les estimations portant sur sa masse, son orbite et son spectre atmosphérique. Sa valeur avait donc subitement grimpé en flèche. On avait toutefois eu la surprise de constater que ce monde lointain avait une propriétaire. Les Nations Unies et la flotte solaire avaient pour intention de réclamer les droits de l'étoile, mais la loi exigeait d'obtenir l'accord de son propriétaire légal. C'était la raison pour laquelle on avait tiré Cheng Xin de son sommeil de 264 ans. À son réveil d'hibernation, Cheng Xin nota aussitôt que, comme elle s'y attendait, on n'avait aucune nouvelle de la sonde du programme Escalier. Les Trisolariens ne l'avaient pas interceptée et ils ne possédaient aucune information sur elle. Le programme Escalier avait été abandonné sur la route de l'histoire. Le cerveau de Yun Tianming, lui, était perdu à jamais dans l'immensité de l'espace. Malgré tout, cet être ayant sombré dans le néant avait laissé pour celle qu'il aimait un monde bien réel, un monde composé d'une étoile et de deux planètes. Les planètes du système de DX3906 avaient été découvertes par une doctoresse en astronomie nommée Ei Aa. Au cours des recherches pour sa thèse, elle avait perfectionné la méthode consistant à se servir d'une étoile comme d'une micro-lentille gravitationnelle pour observer une autre étoile. C'était l'amélioration de cette technique qui avait permis sa découverte. Ei Aa paraissait à Cheng Xin une jeune femme enjouée, un oiseau qui ne cessait de virevolter autour d'elle. Elle prétendait bien connaître les coutumes des gens de l'ère commune, car son directeur de thèse était lui aussi un physicien de l'époque de Cheng Xin. Cela expliquait peut-être pourquoi le premier emploi qu'elle avait décroché, après l'obtention de son diplôme, était celui d'intermédiaire entre Cheng Xin et l'Agence de développement spatial des Nations Unies. La requête des Nations Unies et de la flotte solaire mettait Cheng Xin dans l'embarras. Bien entendu, il ne lui paraissait pas fondé de posséder à elle seule un monde tout entier, mais elle ne pouvait se résoudre à vendre un cadeau offert par amour. Elle proposa d'abandonner ses droits sur DX3906 sans contrepartie, mais de conserver l'acte de propriété en souvenir. Cela lui fut refusé. Ni les gouvernements, ni les Nations Unies, ni les flottes internationales ne pouvaient acquérir légalement un tel patrimoine sans aucune compensation pour sa propriétaire. Il leur fallait lui acheter. Cheng Xin s'y opposait fermement. Après une longue réflexion, elle offrit de vendre les deux planètes, mais de garder l'étoile, tout en exigeant des Nations Unies et des flottes qu'elles signent un contrat stipulant que l'humanité pouvait utiliser gratuitement l'énergie produite par l'étoile. Cette proposition fut étudiée, et les experts estimèrent finalement qu'elle était juridiquement acceptable. Aa indiqua à Cheng Xin que si elle se contentait de céder les planètes, la compensation offerte par les Nations Unies serait nettement plus réduite. Mais la somme restait stratosphérique. Il lui fallait fonder une entreprise pour mener le transfert à bien. Aa demanda à Cheng Xin si elle était d'accord pour l'embaucher au sein de sa nouvelle compagnie. À peine Aa eut-elle obtenu la promesse de Cheng Xin, Elle passa un coup de téléphone et démissionna de son poste à l'Agence de développement spatial des Nations Unies. Après quoi, elle déclara qu'elle parlerait désormais au nom des intérêts de sa nouvelle employeuse. Et elle ne perdit pas de temps. « Tu es complètement folle !» cria A.A. « De tous les choix qui se présentaient à toi, tu as fait le pire. Tu aurais pu revendre ton étoile et devenir l'une des plus grandes fortunes de la Terre, ou bien refuser et garder le système tout entier pour toi. Tu en avais le droit ! À notre époque, la loi est très respectueuse de la propriété privée. Personne ne t'aurait pris ton monde. Et puis tu te serais fait hiberner. Jusqu'au jour où il aurait été possible de s'envoler pour DX-3906, de rejoindre ton monde à toi, un domaine immense avec des océans, des continents, où tu aurais pu faire tout ce que bon te semblait. En m'emmenant avec toi, bien sûr. » Chung-Sin lui répondit que sa décision était irrévocable. « Près de 3 siècles nous séparent. Je ne m'attends pas à ce que nous nous comprenions tout de suite. »« Bon, soupira A.A. Mais tu vas devoir revoir ta conception de la responsabilité et de la conscience. C'est la responsabilité qui t'a convaincu de céder les planètes et la conscience de garder l'étoile, puis la responsabilité encore qui t'a fait renoncer à l'énergie qu'elle produit. Comme mon directeur de thèse, tu es pris en otage par 2 sentiments révolus. Mais aujourd'hui, la responsabilité et la conscience n'ont plus la noblesse de naguère. Ces 2 inclinations sont même aujourd'hui interprétées comme des signes d'une maladie mentale qu'on appelle « trouble social de la personnalité ». C'est une pathologie qui doit être soignée. Même au milieu des lumières de la ville, Chung-Sin n'eut aucune peine à trouver DX-3906. L'air était bien plus pur aujourd'hui qu'à l'époque d'où elle venait. Détournant son regard du ciel nocturne, elle se concentra sur la réalité du monde qui l'entourait. A.A. et elle étaient 2 petites fourmis perchées au sommet d'un resplendissant arbre de Noël, lui-même perdu au milieu de toute une forêt d'arbres du même genre. Des immeubles illuminés étaient accrochés comme des feuilles à leurs branches, mais cette gigantesque cité forestière était bien bâtie à la surface. Grâce à la période de paix qui avait suivi la mise en place du système de dissuasion, le 2e âge des cavernes de l'histoire humaine avait pris fin. Elles marchèrent d'un bout à l'autre de la branche. Chaque ramification était une longue avenue au-dessus de laquelle flottaient d'innombrables fenêtres d'information qui donnaient l'impression de cheminer le long d'une rivière multicolore. De temps à autre, des fenêtres jaillissaient du trafic et suivaient les promeneurs sur une petite portion de route, retournant dans le courant lorsqu'elles s'apercevaient que ceux-ci ne prêtaient pas attention à elles. Tous les bâtiments appartenant à la branche étaient suspendus en dessous de celle-ci. Comme Chung-Sin et A.A. se trouvaient sur la plus haute de l'arbre, il n'y avait rien d'autre au-dessus de leur tête que le ciel étoilé. Si elles avaient marché le long de l'avenue branche inférieure, elles auraient en revanche été entourées par les bâtisses de l'avenue supérieure et se seraient senties comme des petits insectes volants au milieu d'une forêt onirique dont les feuilles et les fruits chatoyaient de rayons iridescents. Chung-Sin observa les piétons. Une femme, 2 femmes, un groupe de femmes, encore une, 3, toutes des femmes, toutes très belles. Vêtues d'habits éblouissants, elles semblaient être les nymphes de cette forêt merveilleuse. Chung-Sin vit passer plus tard une femme plus âgée, à la beauté inaltérée en dépit de son âge avancé. Arrivées au bout de la branche, elles se retrouvèrent sur une plateforme surmontant un océan de lumière. Chung-Sin posa alors une question qui la troublait depuis déjà quelque temps. « Où sont passés les hommes ?» Elle était réveillée depuis 4 jours, mais elle n'en avait encore vu aucun. « Comment ça ? Mais il y en a partout ? Tiens, celui qui est accoudé à la rambarde, et les 3 là-bas. Et puis ces 2 qui s'approchent. Tous des hommes ?» Chung-Sin les observa. Ces individus avaient un visage fin, une longue chevelure leur tombant sur les épaules et une silhouette si fine et ravissante qu'on aurait cru que leurs os étaient aussi souples que des bananes. Leurs gestes étaient élégants et gracieux et leur voix, apportée par le vent, était douce et sucrée. À son époque, ces individus auraient sans nul doute été considérés comme plus féminins que les femmes elles-mêmes. Chung-Sin ne tarda pas à comprendre. Cette tendance avait déjà commencé il y a bien longtemps. Les années 1980 avaient peut-être marqué le dernier apogée de la virilité comme standard masculin. Si les hommes n'avaient pas disparu, à partir de cette époque, la société et la mode s'étaient mises à mettre en avant ceux qui manifestaient des aptitudes et des comportements habituellement attribués aux femmes. Chung Sin se rappelait notamment ces stars masculines japonaises et coréennes du début du XXIe siècle qui, au premier coup d'œil, donnaient l'impression d'être de magnifiques jeunes filles. Certains avaient annoncé à l'époque que la tendance irait en s'accentuant, mais le grand ravin avait marqué un coup d'arrêt dans cette évolution. Cependant, avec la paix et le confort apportés par l'ère de la dissuasion, cette mutation sociale avait repris. C'est vrai que pour vous autres qui venez de l'ère commune, il n'est pas facile de distinguer dès le premier coup d'œil les femmes des hommes, mais ça deviendra évident quand tu verras les regards que certains portent sur toi. Avec la beauté classique que tu dégages, tu vas en attirer plus d'un. Chung Sin regarda A-A, un peu troublé. Qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis une vraie fille, moi. Bah, qu'est-ce qu'ils avaient de si bien, les hommes de ton temps? Ils étaient brutaux, sauvages, sales, comme si l'espèce n'avait pas évolué. Tu t'y feras vite, et je suis sûr que tu finiras par adorer notre merveilleuse époque. 3 siècles plus tôt, alors qu'elle s'apprêtait à être hibernée, Chung Sin avait essayé d'anticiper les difficultés auxquelles elle pensait être confrontée dans l'avenir, mais celle-ci ne lui avait pas traversé l'esprit. En se disant qu'elle passerait le restant de son existence dans un monde à ce point féminisé, elle se sentit gagnée par la mélancolie et ne put s'empêcher de relever la tête pour chercher son étoile dans la nuit. « Et voilà que tu repenses à lui !» fit A-A en lui attrapant les épaules. Même en imaginant qu'il ne se soit jamais envolé dans l'espace pour rester avec toi, les petits-enfants de vos petits-enfants seraient déjà dans la tombe à l'heure qu'il est. C'est une époque nouvelle, une vie nouvelle. Ne pense plus au passé. » Chung Sin s'appliqua à mettre cette suggestion à exécution et à ramener ses pensées vers la réalité. Elle n'était arrivée dans cette époque que depuis quelques jours et elle avait une connaissance encore très parcellaire de l'histoire des 3 siècles passés. Ce qui l'avait le plus bouleversée, c'était cet équilibre pacifique entre la Terre et Trisolaris qui reposait sur la dissuasion de la forêt sombre. Une question émergea soudain dans son esprit. Un monde aussi féminin et aussi doux. Une menace? Chung Sin et A-A revinrent sur leurs pas. Elles furent à nouveau encerclées par des fenêtres d'information flottantes. L'une d'elles attira l'attention de Chung Sin. Elle montrait le visage d'un homme, de toute évidence du passé, aux yeux fatigués, au visage émacié et aux cheveux hirsutes, qui se tenait à côté d'une stèle funéraire noire. L'homme, comme la stèle, baignait dans une pénombre argentée, lunaire, mais les yeux de l'individu paraissaient néanmoins refléter la lueur d'une aube lointaine, ce qui renforçait l'intensité de leur éclat. Un texte s'afficha en bas de la fenêtre. De son temps, un meurtrier comme lui était condamné à la peine capitale. Le visage de cet homme parut familier à Chung Sin, mais l'image s'évanouit avant qu'elle ait pu l'examiner en détail. Elle fut remplacée par celle d'une femme d'âge moyen, du moins Chung Sin l'identifia comme telle, qui prononçait un discours. Ses vêtements ne clignotaient pas, et la sobriété de son accoutrement laissa penser à Chung Sin qu'elle devait être politicienne. Le texte qui venait de s'afficher correspondait au sous-titre de son allocution. La fenêtre détecta l'intérêt de Chung Sin. Elle zooma, puis lança le son de la vidéo pour permettre à Chung Sin d'entendre la suite. La voix de la politicienne était agréable, ses mots paraissaient reliés entre eux par des filaments de sucre filé. Mais le contenu de ses paroles était terrifiant.
Pourquoi un meurtrier était-il passible de peine capitale? Réponse, parce qu'il avait tué. Mais ce n'est qu'une réponse parmi d'autres. On pourrait aussi répondre « parce qu'il avait tué trop peu ». Le meurtre d'un individu vous valait la peine de mort, et c'était la même chose si vous en tuiez 2 ou des dizaines. Tuer des milliers et vous étiez condamné à des milliers de sentences capitales. Plus encore, des centaines de milliers? Bien entendu, encore la peine capitale. Mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, la réponse devient maintenant moins évidente. Et en allant plus loin, si le meurtrier tuait des millions de gens, eh bien il n'était pas condamné à mort, pas même puni. Si vous refusez de me croire, vous n'avez qu'à relire vos manuels d'histoire. Ces criminels, à l'origine de la mort de millions de gens, étaient appelés héros ou grands hommes. Et si le meurtrier détruisait un monde entier, ôtant d'un seul coup la vie de tous ses habitants, eh bien on faisait de lui le sauveur du monde.
Elle parle de Luoji. Ils veulent qu'il soit poursuivi en justice, dit A.A. Pourquoi ? C'est compliqué, mais principalement parce que c'est lui qui a transmis dans l'univers les coordonnées de ce système et qui a donc provoqué sa destruction. Nous ignorons s'il était habité, mais c'est une hypothèse qui ne peut pas être exclue. Luoji est donc suspecté de mondicide, le crime le plus grave dans la loi moderne.
Vous devez être Chung-Sin.
La voix surprit Chung-Sin, car elle provenait de la fenêtre d'information. La politicienne la regardait avec surprise et la pointait du doigt, comme si elle avait retrouvé une vieille amie.
Vous êtes celle qui possède un monde loin d'ici. Vous êtes extraordinaire. C'est vous qui faites rayonner sur notre monde la beauté de votre époque. Vous êtes la seule à posséder un monde et la seule à pouvoir sauver le nôtre. Le public a foi en vous. Oh, permettez-moi de me présenter.
A.A. éteignit la fenêtre d'un coup de pied. Chung-Sin était déconcertée par les technologies d'information de ce nouvel âge. Elle ignorait comment son image avait pu être transmise à la politicienne, et encore davantage comment cette dernière avait pu la choisir au milieu de milliards d'autres êtres humains. A.A. se précipita devant Chung-Sin, puis elle se retourna, et tandis qu'elle marchait à reculons, elle lui demanda « Détruirais-tu un monde pour installer une telle dissuasion ? Et plus important, si l'ennemi ne craignait pas tes menaces, serais-tu prête à appuyer sur le bouton qui précipiterait la fin des deux mondes ?»« C'est une question absurde. Comment pourrais-je jamais me mettre dans une telle situation ?» A.A. stoppa ses pas. Elle attrapa Chung-Sin par les épaules et la fixa droit dans les yeux. « Jamais ? Vraiment ? Évidemment. » Je ne peux pas imaginer une situation plus terrifiante pour un être humain, c'est plus terrifiant encore que la mort, répondit Chung-Sin, quelque peu surprise par le sérieux d'A.A. A.A. hocha la tête. Alors, je suis rassuré. Nous en reparlerons demain. Prends du repos, tu es encore faible, il faut une semaine complète de convalescence pour se remettre de l'hibernation. Le lendemain matin, Chung-Sin reçut un coup de téléphone d'A.A. Sur l'écran, cette dernière paraissait guillerette. Elle annonça à Chung-Sin qu'elle souhaitait l'emmener dans un endroit amusant où une surprise l'attendait, puis elle ajouta qu'une voiture se trouvait sur le toit. Chung-Sin monta au sommet du bâtiment et vit un véhicule volant dont la porte était ouverte. Elle entra dans l'habitacle et constata qu'A.A. n'était pas à l'intérieur. La porte se referma sur elle en coulissant sans bruit. Le siège sur lequel elle s'était assise s'enroula comme une main autour de sa taille. Puis le véhicule s'envola avec grâce et plongea dans le défilé des voitures volantes de la cité forestière. Il était encore tôt et les rayons de l'aurore transperçaient la forêt presque parallèlement à sa surface. La voiture longea la ville à travers ce couloir de lumière. Les bâtiments arboricoles se firent peu à peu plus clairsemés jusqu'à finalement disparaître. La terre se recouvrit bientôt de vraies forêts et de prairies, et un vert enivrant enveloppa Chung-Sin. Après le début de l'ère de la dissuasion, les industries lourdes avaient été dans leur quasi-totalité délocalisées en orbite, et la nature commençait peu à peu à reprendre ses droits. L'environnement redevenait à présent aussi vert qu'avant la révolution industrielle. En raison du déclin de la population et de l'industrialisation de l'alimentation, la Terre s'était métamorphosée en un gigantesque parc sauvage. Cette beauté soudaine semblait irréelle à Chung-Sin. Depuis son réveil, elle avait l'impression d'être encore en plein songe. Une demi-heure plus tard, la voiture volante se posa sur le sol, la porte coulissa et laissa Chung Sin sortir du véhicule, qui repartit aussitôt dans les airs. Quand la bourrasque soulevée par les hélices du véhicule se fut estompée, le silence envahit les environs, seulement rompu par quelques gazouillis d'oiseaux à l'horizon. Chung Sin découvrit qu'elle se trouvait au milieu d'un complexe de bâtiments abandonnés. Cet endroit était probablement un quartier résidentiel bâti à son époque. Les murs des immeubles étaient à moitié recouverts de lianes. En contemplant le passé dissimulé sous le verre de ce nouvel âge, Chung Sin retrouva quelque peu le sens de la réalité. Elle cria le nom A.A., mais ce fut une voix d'homme qui lui répondit. « Bonjour. » Cette voix provenait de l'immeuble derrière elle. Chung Sin vit un individu debout sur le balcon emprisonné par les lianes du deuxième étage. Il n'avait pas l'apparence d'une femme, mais bien celle d'un homme du passé. Chung Sin se sentit encore une fois en proie au songe. Un cauchemar de l'air commune revenait la hanter. Cet homme, c'était Thomas Wade. Il était vêtu de la même veste en cuir noir. Il paraissait avoir un peu vieilli, peut-être était-il entré en hibernation plusieurs années après Chung Sin, ou avait-il été réveillé plus tôt qu'elle, ou bien peut-être les deux. Le regard de Chung Sin fut aussitôt happé par la main droite de Wade. Gantée de cuir, elle tenait un pistolet de leur époque dont il pointait le canon vers elle. Les balles de cette arme ont été spécialement conçues pour tirer sous l'eau. Il paraît qu'elles ont une période de conservation très longue, mais cela fait déjà 2 siècles et demi. Peut-être sont-elles obsolètes, dit Wade, en arborant ce sourire froid que connaissait trop bien Chung Sin, cette expression si singulière qu'il exhibait lorsqu'il jouissait du malheur des autres. L'arme fonctionnait. Il y eut une détonation et Chung Sin vit une étincelle. Son épaule gauche fut comme frappée par un coup de poing et le choc la projeta contre un mur en ruine. Le coup de feu fut étouffé par la végétation et ne troubla pas les lointains chants des oiseaux. « Je ne peux pas utiliser d'armes modernes car chaque tir se retrouve automatiquement archivé dans la base de données de la sécurité publique », affirma Wade d'une voix aussi sereine que s'il s'agissait d'une banale causerie entre collègues de travail. « Pourquoi ?» C'était la première phrase que Chung Sin lui adressait depuis 3 siècles. Elle n'avait pas mal, mais son épaule gauche était légèrement paralysée. « Pour l'épée. Je veux devenir porte-épée. Tu seras ma concurrente et tu vaincras. Ça n'a rien de personnel. Crois-moi ou non, ça me fait même de la peine. »« Est-ce toi qui as tué Vadimov ?» demanda Chung Sin, aux lèvres de qui perlaient des gouttes de sang. « Oui. Il a été utile au programme Escalier. Et à présent, je dois me débarrasser de toi pour les besoins de mon nouveau plan. Vous avez été des partenaires brillants, mais je dois éliminer tous les obstacles qui se trouvent sur ma route. Je n'ai qu'un seul choix. Aller de l'avant, encore de l'avant, et ne reculer devant rien. » Une fois qu'il eut prononcé cette phrase, Wade ouvrit à nouveau le feu, et la balle traversa le flanc gauche de Chung Sin, toujours sans douleur. Cependant, son corps tout entier s'engourdit, et elle perdit l'équilibre. Elle glissa lentement le long du mur, laissant dans son dos une trace de sang sur les lianes. Wade pressa une nouvelle fois la détente, mais cette fois, le temps avait fait son effet, car aucun son ne sortit. Wade ôta la balle usagée du barillet et pointa à nouveau son arme vers Chung Sin. Le bras droit qui tenait l'arme vola en éclats, crachant une fumée blanche. L'avant-bras de Wade avait disparu, et des lambeaux de chair fumante éclaboussèrent les lianes autour de Wade, tandis que le pistolet, intact, tomba du balcon. Wade n'esquissa pas le moindre mouvement. Il donna l'air d'examiner avec indifférence son membre mutilé, puis il leva les yeux. Un véhicule de police fonçait sur lui. Avant même qu'il n'ait touché le sol, plusieurs agents armés sautèrent de voiture et atterrirent sur l'herbe épaisse qui tourbillonnait sous l'effet des hélices. Les agents avaient l'allure de jeunes filles au corps grêle, mais leurs gestes étaient agiles. A.A. fut la dernière à sauter hors du véhicule. Le regard flou, Chung Sin vit des larmes scintiller sur le visage de son amie. Elle l'entendit geindre que quelqu'un avait falsifié son appel. Cheng Xin fut traversée par une vague de douleur, elle s'évanouit. Quand elle se réveilla, elle réalisa qu'elle était à l'intérieur d'un véhicule enveloppé dans une sorte de membrane. La douleur avait disparu et elle ne sentait presque plus son corps. Sa conscience se brouilla à nouveau et elle prononça d'une voix qu'elle fut la seule à entendre : « Qu'est-ce qu'un porte-épée ?